RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Le Tour de France qui fait donc escale en Bretagne pour un week-end de fête avec demain l'arrivée à Mur de Bretagne et puis après-demain le contre-la-montre par équipe à Plumelec. Aujourd'hui, nous sommes à Fougères ce soir où c'est donc Mark Cavendish qui s'est imposé tout à l'heure au sprint. Le cap se rebiffe, 26e victoire d'étape. On va évidemment revenir sur cet exploit majuscule du coureur britannique qui brille sur les routes du Tour depuis l'année 2008. Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc seront autour de moi dans quelques instants, mais à 19h07 on va tout d'abord refaire un petit tour sur le journal des sports avec Guillaume Lagnel. Rebonsoir Guillaume.
Rebonsoir Christophe. À Wimbledon ce vendredi, pas d'exploit pour Richard Gasquet. Le français a subi la loi de Novak Djokovic en demi-finale. Le numéro 1 mondial s'impose en 3-7, 7-6, 6-4, 6-4. Le Serbe qui jouera sa quatrième finale à Wimbledon dimanche, mais qui doit attendre avant de connaître l'identité de son adversaire. Eric Salio est à Londres pour RMC. Salut Eric.
Salut.
Et on fait le point justement sur la deuxième demi-finale. Federer en ballotage favorable face à Andy Murray.
Federer, niveau de jeu tout à fait exceptionnel. Il mène 2 manches à 0, 7-5, 7-5. Il est en tête dans cette troisième manche. Il mène 3 jeux à 2. C'est Andy Murray qui est au service. Mais on assiste vraiment à un affrontement tout à fait prodigieux avec notamment en point d'orgue le 10e jeu du deuxième set où Murray s'est battu comme un lion pour effacer 5 balles de 7. On pensait qu'il pouvait à ce moment-là renverser la tendance, mais il s'est fait cueillir quelques minutes plus tard. Et voilà donc le Suisse en tête avec 2-7 d'avance face à Andy Murray. Murray qui a déjà remonté 7 fois dans sa carrière un handicap de 2-7, mais là celui-là s'il va le chercher ce sera énorme et ça fera du bruit à Wimbledon.
Merci Eric, on te retrouve évidemment tout au long de la soirée pour cette deuxième demi-finale. 26e victoire d'étape sur le Tour, on en parlait pour Mark Cavendish ce vendredi. Le coureur britannique a remporté la 7e étape au sprint. Le maillot jaune est désormais porté par Christopher Froome qui possède 11 secondes d'avance sur Peter Sagan et 13 sur Van Garderen. Jugement clément pour Nicolas Karabatic. Le handballeur français a été reconnu coupable d'escroquerie dans l'histoire des paris suspects. Il devra s'acquitter d'une amende de 10 000 euros. Aucune peine de prison n'a été retenue. Son frère Lucas, lui, devra débourser 15 000 euros. Les deux frères ont décidé de faire appel. En football, Johan Cabaye quitte la Ligue 1. Comme attendu, l'international français s'est engagé pour 3 saisons avec Crystal Palace. Le montant du transfert est estimé à 14 millions d'euros. Il s'agit du plus gros transfert dans l'histoire du club anglais. Et puis en athlétisme, c'est le début aujourd'hui des championnats de France à Villeneuve-d'Ascq. Renaud Lavilloni, Jimmy Vico et Pascal Martineau-Largat sont les têtes d'affiche à un mois et demi des mondiaux. Il s'agira aussi pour plusieurs athlètes comme Cindy Billot ou Benjamin Compo-Aoré de réaliser les minima. Les championnats de France seront à suivre tout au long du week-end sur RMC. Il est 19h10 et sur RMC, on continue à débriefer la 7e étape du Tour de France avec Christophe Cessieux et toute son équipe.
Et tout son orchestre, plus exactement, avec la grosse caisse nommée Cyril Guimard. Non, c'est notre druide, on va pas lui changer de prénom, ça lui va tellement bien, le druide. Bonsoir Cyril.
Oui, bonsoir, bonsoir à tous. Oui, le druide, ça me va bien, puis ça ne me gêne pas, donc ça va.
Le champion Luc Leblanc qui sort de la télé avec un passage remarqué évidemment sur BFM Télé. Tu as été bon, est-ce que tu as bien résumé ce
qui
s'est
passé aujourd'hui? Oui, j'ai dit que Urs Froehlich avait fait deuxième.
Non, je rigole.
Non, tout s'est bien passé. Je vais faire comme Cyril. Bonsoir, bonsoir à tous.
Non, tu l'as pas encore. L'imitation, il va falloir attendre quelques années encore. Et puis Thierry Bourguignon, que j'entends pouffer là-bas. Ça le fait. Les blagues de Luc te font rire. T'es bien le seul quand même, hein. Non, ça va Thierry?
Ça me fait marrer parce que vous êtes vraiment dans le délire, les gars. Et bon. C'est la chaleur que vous avez retrouvée.
Non, il fait bon, il fait bon en Bretagne, ça fait du bien.
Ouais, toi qui te moques toujours des Bretons.
Mais pas du tout, c'est pas mon genre.
Il pleut que sur les cons comme vous y êtes, il pleut pas.
Et il pleut, ah ouais. Exactement. Voilà un bon résumé de Thierry.
C'est ce que les Bretons disent.
Hein. Ouais, ouais.
Oui, enfin, qui est-ce qui a sorti cette expression?
Ah, la science.
Ça y est, c'est
la science.
Ça
y est, Lucho. Lucho, on l'a refait démarrer.
C'est Olivier de Kersauzon qui a sorti ça, exactement. Ouais.
C'est ce que je viens de dire.
C'est ce qu'il vient de dire.
Il ne pleut que sur les cons.
Mais il n'avait pas le casque.
Ouais, mais même en limousin, il ne pleut que sur les cons. Et comme il n'y a pas de pluie en limousin.
Messieurs, on n'a pas de cons, on n'a pas de pluie, on a des champions, et notamment un immense champion, nommé Mark Cavendish, qui a donc remporté tout à l'heure la 7e étape de ce Tour de France entre Livarot et Fougères. On savait que l'étape était réservée au sprint. compteur, même si quelques baroudeurs ont bien tenté de leur fausser compagnie, pendant un long moment, mais Cyril, on le savait, aujourd'hui c'était pour les sprinteurs. Ils n'auront pas beaucoup d'autres occasions de briller sur les routes du Tour d'ici l'arrivée sur les Champs. C'était quasiment leur dernière chance avant les Champs-Élysées dans un peu plus de deux semaines. Donc là, l'occasion était trop belle pour les sprinteurs.
Hein. L'occasion était trop belle, elle était presque unique, en fait, du moins sur cette première partie de Tour de France, puisque entre demain, ce sera Mur de Bretagne. Après, vous aurez un contre-la-montre par équipe. Derrière, on va avoir un gros transfert qui va nous emmener au pied des Pyrénées. Et là, tous les jours, eh bien, on grimpera, on descendra aussi, mais ça prend beaucoup moins de temps. Donc, les sprinters ne devaient pas se rater, ou tout du moins Cavendish ne devait pas se rater. Greipel, il peut se rater, il en a déjà gagné deux. Peter Sagan avait besoin de gagner, mais lui, il s'est encore raté aujourd'hui. Mais ceci dit, il aura l'occasion, lui, d'aller chercher d'autres victoires d'étape sur des étapes plus difficiles sans être de la haute montagne. Donc aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre que des coureurs soient partis dans un raid de 180 km alors qu'on sait très bien que c'est pas possible d'aller au bout. Non, toutes les équipes de sprinters qui n'ont pas gagné vont rouler dans le final. Elles vont laisser prendre 2-3 minutes.
C'est tout,
attends, partir au départ, se faire mal aux jambes.
Mais ce sont des échappées
pour rien.
Non.
Oui, mais moi je veux bien.
Montre le maillot.
La meilleure publicité, c'est de gagner.
Un directeur sportif qui me disait d'attaquer dès le départ aussi. Donc fallait aller dans
Cyril.
Les coups. Fallait aller dans les coups, hein, Cyril. T'es atteint d'Alzheimer.
T'étais le premier à nous dire.
Mais non, mais Cyril. Mais il y a pas de course sinon.
Vous êtes de mauvaise foi.
D'accord.
Mais alors c'est pas pire.
Mauvaise foi.
Si j'ai fait attaquer au départ, moi je vais te dire où j'ai fait attaquer au départ.
Non. Tu vas dans les coups.
Tour d'Italie avec la montée du Stelvio pour jouer le Giro. Oui. On a durci la course, on a durci collectivement la course. On s'est retrouvé avec un groupe qui a réussi à partir avec deux coureurs de chez nous, je crois Vilmian et Bernodeau, et on a récupéré Bernodeau dans la montée du Stelvio. Ça, c'est des attaques qui servent à quelque chose dans la course.
Fructueuses.
Mais partir faire un raid publicitaire, mais attendez, vous rigolez. Le vélo, c'est pas de la
Cyril,
publicité.
Cyril, pour une
mais
équipe
si, aujourd'hui, si c'est
pour
comme
une
ça,
équipe comme Bretagne Séchant Environnement, c'était important aujourd'hui de montrer qu'ils sont là, qu'ils sont bien présents dans le Tour, et en plus ils ont franchi la frontière symbolique de la Bretagne en rentrant en tête. C'est important quand même pour une équipe qui aura du mal à décrocher des victoires d'étape.
Une seule chose qui a de l'importance, c'est gagner.
Mais d'accord, mais quand tu peux pas gagner à la pédale les étapes, c'est bien au moins de montrer que t'existes, non?
Le panache,
j'aime
Cyril,
pas ça, le panache.
Cyril, elle se fait comment l'étape?
Mais ça veut dire quoi?
Comment
ça veut dire
se fait
qu'on prend un balai? Hein, on balaye la scène de théâtre, là, du théâtre, pour que les stars viennent ensuite.
Tu sais ce qu'il faut
sur cette scène
tu sais
sans ce.
Mais de temps en temps, il y a des coups qui peuvent arriver au bout. C'est
et
arrivé.
Tu sais ce qu'il faudrait mettre
pas aujourd'hui.
Tu sais ce qu'il faudrait mettre avant que les coureurs attaquent, c'est le générique. Ah, toup 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 toup. Tu te rappelles sur France 2, c'est la pub.
La pub.
Dans eh oui, la publicité. Le truc.
Mais les mecs, dites-moi une étape comme aujourd'hui, ça se passe comme ça.
Et voilà, t'as les mecs qui partent, voilà.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des étapes.
On fait quoi aujourd'hui?
Tenter des coups, mais pas aujourd'hui.
Mais on fait quoi aujourd'hui? Donc on se balade.
Aujourd'hui, fait quoi?
On fait une jolie sortie de vélo.
Non, mais l'Érythréen, quand il a marqué son point, là, il fallait qu'il se relève.
Il a fait la même bêtise.
Mais il s'est relevé à 10 bandes de l'arrivée, quoi. Non, mais attends. Non.
Non. Non, non, toi, tu es d'accord avec l'ancien directeur sportif.
À la limite, qu'il parte pour marquer le premier point. Ok, mais
qu'est-ce qu'on pourrait s'emmerder avec des mecs comme ça?
Il aurait dû stopper.
Il y a 190 mecs qui font de la balade. C'est ce que vous préconisez. Et on fait un sprint au final.
T'imagines, après, il va se faire une fracture du crâne dans le premier col dans les Pyrénées.
On se serait ennuyé encore plus que ça a été le cas aujourd'hui.
Mais la course
serait partie plus loin s'il n'y avait pas eu d'échappée.
Tu penses que oui? Alors, tu penses que les échappées auraient pu.
70 km de l'arrivée, tu peux avoir des vrais mouvements.
C'est rare de voir une course sans échappée. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire du Tour de France ces dernières années, de voir une étape de plat sans que des baroudeurs tentent leur chance.
Non, mais des baroudeurs. Des baroudeurs ou des échappés, je ne sais pas comment tu les appelles. Soyons sérieux, il y a les trois premiers coureurs qui lèvent le cul au moment où Prudhomme baisse le drapeau, et ces trois coureurs s'en vont. On dit c'est des baroudeurs. Ils sont même pas. On les a laissés partir.
Oui, c'est maintenant c'est comme ça. Ouais,
les baroudeurs, c'est ceux qui à la pédale.
Là, je te rejoins.
Tu as raison, c'est vrai. Qu'avant, il y avait quand même
une heure de course normalement.
Résistance du peloton pour limiter les échappés, pour chaque fois essayer de prendre le bon coup. C'est plus le cas.
Ça n'existe plus. C'est-à-dire que les trois premiers qui lèvent le cul.
Alors pourquoi? Parce que,
parce que vous avez 4 ou 5 équipes, ça les intéresse. Une fois que, une fois que le coup est parti, qu'il a 6 ou 7 minutes, eh ben, ça a rendu tout le monde bien calme. Voilà. Et puis, les grosses équipes.
C'est parce que tous les directeurs sportifs parlent comme toi.
Pourquoi ils parlent?
Parce qu'on interdit aux coureurs de relancer derrière.
C'est clair.
Et c'est tout. C'est pour ça qu'on a des courses de merde.
Oh, tu rues, là,
non, mais non, mais c'est là, exactement ça,
non,
aujourd'hui.
Non, tu es vulgaire, tu es vulgaire.
Mais non, mais aujourd'hui, il y a trois coureurs qui attaquent et tu laisses faire.
Oui, mais tu serais
sur. Il n'y a pas de relance derrière.
Mais Thierry, tu serais
sur le. Pas normal, aujourd'hui, qu'il y a pas de relance et qu'on laisse partir les trois premiers.
Mais non, mais attends, aujourd'hui, vous seriez sur le vélo, les gars, vous avez fait du vélo.
Là, je suis d'accord.
Aujourd'hui, vous seriez dans le peloton. Aujourd'hui, vous feriez comme les mecs qui sont dans le peloton aujourd'hui. Vous auriez laissé partir les trois devant.
Mais non!
Mais bien sûr que si, Thierry.
Et non, s'il y a pas, et attends, si je suis pas dedans, je relance derrière.
Ça se passe sur le Tour de France et que ça se passe pas autour d'Espagne et pas autour d'Italie.
Voilà, exactement.
C'est des coups de 15 mecs qui partent.
Mais non, mais de toute façon.
Autour d'Espagne, c'est des coups de 15 mecs qui partent.
Non, mais attends, mais c'est
en France, c'est seulement
3.
La plus grande course au monde, celle qui est la plus médiatique, on laisse partir 3 mecs.
Mais Cyril, j'ai eu une information l'an dernier de directeurs sportifs qui disaient à leurs coureurs le matin, surtout, n'allez pas dans les coups, ça ne sert à rien. Comme tu viens de parler. Donc à partir de là, il y a 3 suicidaires qui vont lever leur cul, et derrière, il n'y a aucune relance, puisqu'on leur interdit d'y aller. Et puis c'est une balade d'une
admettons
journée.
Admettons que toi, tu aurais été dans les 3, Thierry. T'aurais été content que le peloton ne fasse rien derrière.
Mais non, Lucho.
Ouais.
Mais il n'y a pas de course, d'accord. Mais jusqu'à présent, par le passé, on vit pas avec le passé, mais par le passé, pendant une heure, ça bataillait. Là, ça fait quelques années mais autour de France, et Cyril a raison, parce que la Vuelta et le Giro, il y a des relances, et on a l'impression que les mecs, ils veulent exister, ils veulent montrer au moins le maillot.
C'est compréhensif, ils ont eu une petite semaine harassante, là. Donc,
c'est vrai, les pauvres. C'est vrai qu'ils font du vélo, il y en a qui bossent à l'usine. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile.
Non, mais quand tu regardes la carte du Tour de France aussi, tu vois la deuxième partie, tu te dis oulalalala.
Ouais, mais dans ces cas-là, il y avait des coureurs qui levaient jamais leur cul, mais tu les voyais même pas, et ils pétaient quand même. Alors, résultat, tu passes inaperçu.
Très bien, il y en a un qui ne passe pas inaperçu, c'est évidemment Marc Cavendish qui avait été un peu humilié, il faut bien le dire, depuis le départ de ce Tour de France dans les sprints. On pensait vraiment qu'il était en semi-retraite ou presque sur ce Tour de France. Ne vous amusez pas à aller lui poser ce genre de questions, parce que Pierrick Ten tout à l'heure a essayé de poser une question, il s'est fait bâcher mais sévère par Marc Cavendish qui quand il retrouve le chemin de la victoire retrouve un peu de hargne, comme
c'est
ça a été le cas
fair-play British
tout à l'heure.
Non, qu'on appelle.
Voilà, ça doit être le fair play British. En tous les cas, 26e victoire d'étape, c'est quand même pas mal. Hein. Il est à 2 victoires de Bernard Hinault et à combien? À 8 victoires de Eddy Merckx. Alors ce soir, on se pose la question de savoir si il pourra battre ce record de 34 victoires d'Eddy Merckx. On rappelle que Marc Cavendish n'a que 30 ans. Hein. Lucho, c'est pas si vieux que ça pour un coureur cycliste.
Non, bien au contraire. Hein. Il a encore au moins 4-5 bonnes années à faire devant lui. Bon, après, c'est vrai que plus les années passent et plus moins il sera vif dans les sprints, mais tu regardes Greipel qui est quand même plus âgé, je pense, que Cavendish, il arrive encore à remporter des étapes, il est à la 27e, il lui en faut encore 8, il peut arriver au coude à coude avec Bernard Hinault à la 28e s'il gagne les Champs-Élysées. Après, il faudra attendre peut-être.
Il en a 26, il en faut 2.
Il y a 26 ou 27.
Non, 26.
Donc il en faut 2. Donc il faudra attendre un petit peu pour arriver.
L'année prochaine.
Ouais, l'année prochaine, ouais.
Tu penses que l'année prochaine il peut égaler Hinault et ensuite.
Je pense à la limite qu'il a envie d'égaler Hinault et de se rapprocher de Merckx. Oui, je pense que c'est l'un de ses objectifs quand tu regardes le nombre de victoires qu'il a. Il lui en faut quand même encore quelques-unes. Mais ceci dit, c'est pas insurmontable.
Cyril, ton avis là-dessus?
Non, Merckx, il ira pas le chercher.
Non,
en allant, il faut imaginer aujourd'hui, parce qu'il a, il y a des années où il gagnait 4 étapes, 5
6 victoires en 2009, par exemple.
Il y a 4 ou 5 ans, il avait la flamme, il avait la foi. Il avait aussi une équipe qui était super bien organisée autour de lui. Non pas que celle actuellement ne le soit pas, mais surtout, il avait moins d'adversité. Attendez, aujourd'hui, il a un Greipel qui arrive très fort, il a Kittel qui arrive très fort, il a Degenkolb qui continue de progresser,
Christophe,
il a les Français qui vont arriver aussi,
Boigny,
peut-être pas cette année, mais qui arrivent. Et puis, il s'est pris quelques râteaux, il s'est pris quelques gaufres. Il y a un moment, vous freinez un peu plus que quand vous avez 23, 24 ou 25 ans. Et donc là, si vous retirez un petit peu, c'est des victoires qui s'en vont. Sauf qu'aujourd'hui, il a pas retiré.
Ouais, mais Cyril, ce que j'ai vu depuis, ça fait deux ans quand même que Cavendish n'a plus l'explosivité qu'il l'avait avant, parce que quand il partait pour le sprint, il décollait mais de 2 mètres tous les adversaires. Alors que d'accord. Là aujourd'hui, bon, il va gagner le sprint de belle façon, mais un peu plus à l'arrache. Et quand il accélère, on a vu le sprint de la deuxième étape.
Que les autres années. Ça,
l'accélération ne met pas dans le vent les autres.
Alors, qui sont rapprochés. C'est toujours le problème. Alors effectivement, il fait moins d'écart, mais j'ai le sentiment que Greipel va plus vite qu'il y a 2 ans ou il y a 3 ans. Le problème, c'est toujours la même chose. Il faudrait presque avoir des chronos sur des sur des portions bien précises, à peu près, que l'on pourrait comparer. Moi, je pense qu'il va peut-être un tout petit peu moins vite, mais que les autres se sont rapprochés de lui.
C'est sur les watts qu'il faudrait voir.
Et à partir de ce moment-là, les différences sont moins importantes. Et puis, avant, il pouvait se permettre de faire une faute de placement. Comme je dis toujours, tu fais le grand tour et tu vas finir par passer. Là, s'il fait une faute de placement, il est mort, quoi.
Ouais. Bruno est avec nous au 32-16. Il nous appelle de Gironde. Il voulait intervenir dans notre débat concernant Cavendish et le record mythique d'Eddy Merckx. On vous le rappelle, 34 victoires. Salut Bruno.
Salut tout le monde.
Salut Bruno. Ouais,
alors,
salut.
Bruno, il va aller le chercher, ce record du cannibale.
Et Shannon qui est bien capable de le faire. Je crois que c'est lui. Alors, ça répond qu'à moitié à la question, mais... Je serais plutôt optimiste sur cette question, parce que c'est vrai qu'il les ramène plus par 4 ou 5, mais allez, il en reste pas des tonnes, hein, même si ça sera peut-être les plus durs, mais je veux dire, des sprinteurs comme lui, quoi, c'est assez incroyable, et pourtant il y en a eu des bons, des Petaki, des Cipollini, des Abdou Japarov, mais lui, quoi, je veux dire, c'est année après année, il est toujours là. Ok, les autres poussent, mais il a encore gagné aujourd'hui.
Ouais. Bruno, je te coupe quelques instants parce que je crois qu'il y a une balle de match à Wimbledon pour Roger Federer face à Andy Murray, Eric Salio.
Absolument, balle de match pour Roger Federer, balle pour rejoindre. Et voilà, c'est fini, incroyable victoire de Roger Federer, incroyable, tellement la qualité de jeu a été fantastique. 3 petits sets ont suffi aux Suisses, 7-5, 7-5, 6-4. Les rêves de Andy Murray sont brisés, mais il est tombé sur un Federer extraterrestre. Donc Federer, Djokovic, bah, il me semble que c'était la finale de l'an dernier.
Ah oui,
incroyable.
C'est un remake de la finale.
Incroyable
de
niveau de jeu.
Remporté
de
l'an dernier par Novak.
Ouais, en 5-7.
Ouais, en 5-7.
On est terminé à 20 ace, 56 coups gagnants, ouais. 76% de première balle. Stratosphérique Federer à 33 ans, c'est remarquable.
Comme quoi on peut encore gagner à 33 ans. Plein de victoires. Merci Eric. Donc Federer qualifié pour la finale qu'il opposera dimanche à Djokovic. Bruno est toujours avec nous. Il voulait intervenir dans notre débat. Bruno, continue ta démonstration. Continue de nous dire ce que tu voulais nous dire.
Oui. Donc pour moi, voilà, meilleur sprinter, je crois qu'on peut le dire, si on l'avait pas encore dit, de tous les temps, quoi. Allez, je vis que là. Bon, même si on peut peut-être pas comparer les époques et les décennies. Il transpire l'envie de gagner, de croquer tout le monde. Alors je sais pas s'il pense vraiment au record de Merckx, mais voilà, quoi, il a envie de gagner et il a que 30 ans et, ouais. Et bon, je crois qu'il va y arriver.
Je ne suis pas sûr qu'il sache combien Merckx a gagné d'étapes, hein.
Oui, alors ouais. on lui a posé la question tout à l'heure. Il dit, moi je cours pas après les records, c'est pas ça qui m'intéresse.
C'est là qu'il est bâché, non?
On va écouter Patrick Lefebvre, qui est son directeur sportif, le patron de la formation Ethics Quickstep, qui est plutôt manager d'ailleurs. Lefebvre qui parle de Cavendish, qu'on avait un petit peu critiqué depuis quelques temps. La réponse de Patrick Lefebvre.
Bah, je pense que tout le monde peut être jaloux sur Mark Cavendish. 26 victoires dans le Tour de France. Il y a peu de gens qui puissent faire ça ou dire ça. Pour ceux qui ont déjà fini leur carrière de sprinter de Mark Cavendish ce matin ou hier, tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils connaissent rien du cyclisme.
Voilà, ils connaissent rien du cyclisme, ceux qui ont enterré Mark Cavendish.
Il change pas, hein.
Qui, Patrick? Patrick Lefebvre? Non, bah, il est toujours là, il défend ses hommes, évidemment. Ah, il en a
normal,
gagné avec,
hein,
c'est un drôle de druide belge, lui aussi, hein, Cyril, quand même, hein.
Ah, c'est un spécialiste des courses d'un jour, et
ouais,
puis, des
grandes classiques.
Mais je crois qu'il n'a jamais gagné le tour,
hein. Il a encore. Jamais gagné le Tour de France.
Je crois qu'il a jamais gagné un grand tour, peut-être même.
Ah ouais, mais bon, voilà, il a.
Donc il est spécialisé.
Paris-Roubaix, je me rappelle de certaines.
C'est un belge flamand, donc.
Ouais.
il voit surtout les courses,
d'un jour. Flamand.
Très bien, merci Bruno d'être venu au 32-16, évidemment. Et puis Mark Cavendish, quand même, qui dans la hiérarchie des victoires d'étape est le plus grand sprinter, parce que devant lui, Eddy Merckx était un coureur complet, qui gagnait en montagne, qui gagnait en contre-la-montre, qui gagnait partout, même en sprint. Bernard Hinault, même combat que Eddy Merckx. Et le troisième, c'est donc Mark Cavendish, plus grand sprinter de l'histoire du Tour de France, ça on peut le dire.
Tout à fait.
Très bien. Ah, j'aime bien quand il me dit tout à fait, c'est rare quand même. Depuis 10 ans maintenant.
Mais j'essaie toujours d'être objectif. Pour une fois que tu dis quelque chose qui est censé.
Oh, merci, ça fait plaisir. Je vais lui mettre une tarte, moi, Audrey, vous allez voir.
Ah, 19h27. Non, mais t'auras pas de champagne ce soir. Hein.
Oui, c'est vrai. On est invité chez le Druide ce soir à manger, donc je vais y aller doucement. 19h27, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'intégral tour. On va parler de Chris Froome qui a récupéré le maillot jaune aujourd'hui. Il n'y avait pas de maillot jaune sur le Tour de France. C'est quand même assez rarissime. Mais demain, Chris Froome sera bien en jaune. Et puis, on s'intéressera également à l'étape de demain, arrivée à Mur de Bretagne. Voilà, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Et puis ensuite, à 20h, les questions des auditeurs à Luc et à Thierry. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
Et ce soir, comme tous les soirs, entre 19h et 20h, Cyril Guimard, Thierry Bourguignon et Luc Leblanc pour revenir sur l'étape du jour, donc 7e étape qui s'achevait tout à l'heure à Fougères avec la victoire de Mark Cavendish, dont on a beaucoup parlé. C'était une journée de gloire pour les cyclistes britanniques sur les routes du Tour, puisque outre la victoire de Cavendish, c'est un autre Britannique qui s'empare du maillot jaune, un maillot jaune qui n'était pas présent dans le Tour aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup de maillots jaunes, parce qu'on a... ça a été une remarque tout à l'heure sur le hashtag RMC Live d'un de nos tweetos qui nous disait oui, je suis un peu énervé parce qu'il y a beaucoup trop de maillots jaunes. Les gens ne respectent plus, les équipes ne respectent plus la traditionnelle couleur symbolique du Tour de France. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des maillots avec beaucoup de jaunes. Donc du coup,
on va surtout une. Hein.
Oui, la formation
hollandaise, oui.
Oui, de l'auto jumbo.
Oui. Oui, à une époque, c'était interdit d'avoir un maillot jaune.
Je me rappelle même de l'équipe de Manolo Sainz, de Laurent Jalabert.
Qui changeait de maillot.
Qui était en jaune sur toutes les autres courses et qui arrivait au Tour de France, mettait un maillot rose.
Oui, exact. Alors, il y avait, donc le maillot jaune s'est déposé. Et la première équipe qui est arrivée avec des maillots jaunes sur le Tour de France, c'était en 78, c'était l'équipe Renault.
Renault, bien sûr, vous aviez du jaune.
Ça avait d'ailleurs posé un gros problème entre nous et Félix Lévitant et Jacques Godet qui nous disent « Vous ne pouvez pas mettre un maillot jaune, c'est interdit par le règlement. »
Mais c'était les couleurs de la régie aussi. Hein.
Comment ?
C'était les couleurs de la régie.
Alors, oui, mais ça pouvait être les couleurs de la régie, c'était pas un souci. Sauf que quand on est allé, quand on a vérifié à la NPI, on s'est rendu compte que le dépôt du maillot jaune, c'est pas le Tour de France qui l'avait mis en premier, mais la régie Renault. Et en fait, la régie Renault, lorsqu'elle a pris ses couleurs, jaune, noir, etc., avait déposé dans toutes les classes, dans toutes les catégories, tout ce qui pouvait toucher à l'image du jaune de Renault. Et ils avaient déposé un maillot de coureur cycliste. Et donc, comment ça s'est terminé ? Ben, la régie Renault a dit à M. Godet, à M. Lévitant, ben, c'est ou vous changez votre maillot, mais nous, on ne le change pas. Et d'ailleurs, pourquoi vous avez fait un maillot jaune ? Puisque nous, on l'a déjà déposé. Ah, problème. Bon, ben écoutez, on va réfléchir. Ah mais c'est tout réfléchi. Et donc on est parti avec nos maillots et puis
d'accord,
la réplique du losange de la régie Renault.
Très bien, belle histoire.
Bon, ça, je ne l'ai pas expliqué à Manolo Sainz.
Ouais, ouais.
Sinon, il aurait continué avec son maillot jaune. Mais peut-être que les Hollandais le savent. Enfin, non, c'est pas la même chose puisque nous, le maillot était déposé. Celui des Hollandais, à mon avis, ne l'est pas.
Je pense qu'ils n'ont pas déposé le maillot jaune avant le Tour de France.
Oui, Thierry. Problème de cette équipe, le maillot est blanc. Dominance blanche devant, mais vu d'hélicoptère, vu d'en haut,
ouais,
on voit du jaune. Et c'est vrai que sur les images, ben, on n'arrive pas à distinguer de très loin si c'est le maillot jaune ou l'équipe de l'auto Jumbo.
Et puis il y a l'équipe de Contador qui a quand même aussi.
Ouais, mais c'est un peu fluo.
Ouais, c'est pas tout à fait le même jeu. En tous les cas, il y avait donc les maillots jaunes de l'équipe l'auto Jumbo, mais il n'y avait pas le maillot jaune de Chris Froome, puisque vous le savez, Tony Martin, hier, avait franchi la ligne d'arrivée avec le maillot jaune. qu'il a donc abandonné ce matin, mais on a décidé de ne pas réattribuer ce maillot jaune.
Mais c'était quand même le leader de la course.
Mais c'était quand même Chris Froome, le leader de la course aujourd'hui. Et ce soir, il a donc récupéré ce maillot. Alors, est-ce que c'est pas un peu tôt? Est-ce que finalement, les jours qui vont précéder la montagne, il y en a plus beaucoup finalement. Hein. Il y a demain et après-demain. C'est le bon moment pour récupérer ce maillot jaune, Thierry.
Je pense que bon, c'est vrai que il reste pas grand chose. Hein. Il y a l'étape de demain et puis le chrono par équipe d'après-demain. Et après, on est dans le vif du sujet. Ils vont pas. Là, la première semaine, c'est relativement bien passé pour eux, puisqu'ils l'ont défendu juste une journée ou deux, hein, je crois.
Lucho, tu crois qu'il va le garder jusqu'à Paris maintenant, ce maillot jaune, Chris?
Non, pas forcément, mais il va le garder jusqu'aux Pyrénées déjà. Ouais. Je pense qu'il va le conforter contre la montre Van Plumelec. Donc on voit mal comment il peut le perdre aujourd'hui, hein. Franchement, demain peut-être avec Sagan et encore. Je pense que Froome il va vouloir peut-être faire. Si je me souviens bien là, quand on était arrivé à Mur de Bretagne, quel était le leader du Tour de France qui avait tenté un coup? C'était Contador, je crois. Contador avait attaqué.
Il avait deux, il était pas jaune.
Non, mais il avait attaqué dans le mur de Bretagne, Contador.
Il va faire deux.
Et il faisait partie des favoris.
Pour te dire
une chose, c'est que Froome risque peut-être d'attaquer demain dans le mur de Bretagne pour essayer de se tester.
S'il veut le garder, c'est facile pour lui, je pense.
Alors ce sera le thème de notre troisième débat, mais si vous voulez qu'on tienne jusqu'à 20h, ce serait sympa de ne pas en parler tout de suite. Pour l'instant, on vous parle de Chris Froome. Est-ce que c'est pas un peu tôt pour prendre le maillot jaune? Est-ce qu'il y a une grosse responsabilité? Est-ce qu'on est obligé, lorsqu'on est l'équipe du leader, de défendre ce maillot? C'est une tradition, là aussi, Cyril.
Obligatoire. Oui, la tradition, moi, personnellement, je m'en fichais de la tradition. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'arriver à Paris avec le maillot jaune. Là, il se retrouve avec le maillot jaune qu'il avait quand même volontairement abandonné le jour de l'étape des pavés, à Valenciennes, il faut s'en rappeler. Pas à Valenciennes, à
Cambrai.
À Cambrai. Oui.
Je suis pas vraiment d'accord, moi.
Qu'il l'a abandonné. Mais sûr que si.
Il bouge pas
sur Tony Martin.
Mais il bouge pas. Il était seul avec un équipier.
C'était super intéressant. Moi, c'est ce que j'aurais joué, je peux te le dire.
Oui, hein. Non, mais ça l'arrangeait. L'arrange, d'accord. Mais bon, il l'a pas délibérément.
Si ça l'arrange, il l'a fait volontairement. Puisqu'il roule en tête, Tony Martin s'en va. Attends, l'équipe ETX, elle a aucune ambition au classement général. Tony Martin s'y prend le maillot. Leur souci, enfin leur objectif, c'est de le garder jusqu'aux Pyrénées, jusqu'à Mur de Bretagne, demain. Donc là, ils allaient avoir une équipe qui allait rouler, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Malheureusement, hier, ça s'est mal terminé pour Tony Martin. T'as pas la pression de la course, t'as rien, tu laisses faire. Bon, aujourd'hui, il était leader, même s'il n'avait pas le maillot, donc la responsabilité était la même. Ils sont juste venus dans le final. Rouler, ils n'ont pas roulé de la journée. Alors aujourd'hui, j'ai presque envie de dire, les places au classement général étant déjà fixées entre les différents leaders. Qu'il ait le maillot ou pas, s'ils courent bien, ils vont pas faire plus d'efforts avec ou sans le maillot. Mais c'est toujours mieux quand même, en cas de pépin, d'avoir une autre équipe qui a le maillot quand vous êtes le favori et celui dont on sent qu'actuellement il est en train de devenir le patron du Tour. C'est toujours bien d'avoir une autre équipe qui, en cas de pépin, va venir rouler avec vous. Ouais. Si vous êtes piégé à un moment pour X raisons, si l'équipe du maillot jaune est avec vous, vous êtes deux équipes à rouler. Si l'autre équipe n'a pas le maillot, elle va vous laisser faire tout seul. Ouais. Donc vous avez toujours intérêt à laisser. Alors, pour une autre raison également, c'est que quand vous faites des petits cadeaux comme ça, vous vous faites des amis. Mais vous faites des amis à tous les niveaux, à tous les compartiments de la course.
Ce qu'Armstrong n'a jamais fait.
C'est rester, ne serait-ce que la position dans le peloton, fermer une porte ou pas la fermer. Et tout ça, il faut en tenir compte quand vous êtes directeur sportif. Donc, si le coureur dit « moi, je veux le garder », si vous êtes directeur sportif, vous dites « attends, c'est pas toi qui commande, c'est moi
hey. ». Donc là, pas de cadeau fait par la formation Sky, donc ils n'auront pas d'amis, donc ils vont jouer.
Mais c'est, ils l'ont fait, malheureusement, les circonstances. Bon, donc demain, le problème, justement, c'est que ils ont quelle équipe pour rouler? Bonne question, ils ont quelle équipe pour rouler en cas de pépin? Parce que c'est pas dans les mouvements de course que ça se passera. En cas de pépin, ils ont quelle équipe pour rouler? À la limite, ils pourraient avoir la Tinkoff. Pour que Sagan puisse aller chercher le maillot.
Bon. Mais oui,
mais
ils auront la plus
d'attitude. Il a aussi un leader. Donc, avec le Contador. Donc, ils bougeront pas. Donc, mais oui, dans une étape comme celle de demain, il aurait été préférable qu'il n'ait pas le maillot.
Très bien. On va écouter Chris Froome justement interrogé après la ligne d'arrivée, après la cérémonie protocolaire où il a donc revêtu à nouveau ce beau maillot jaune. Il est un peu trop grand. T'as pas un truc à faire, Lucho, avec Ancestral Ground pour lui faire un maillot jaune un peu plus cintré?
Avec Ancestral Ground, mais ouais, ça va bientôt arriver.
Tu fais pas les maillots jaunes encore.
Ça va bientôt arriver.
Bon, en tous les cas, la chemise de Cyril est.
Elle est belle. Hein. Mais c'est surtout les pantalons.
Les pantalons. Ouais. Chris Froome, on écoute tout de suite le nouveau maillot jaune de ce Tour de France.
C'est évidemment un grand plaisir de porter ce maillot jaune à nouveau. Maintenant, vu les circonstances et la blessure de Tony Martin, ce n'est pas l'idéal de le récupérer dans ces conditions. Demain, c'est Mur de Bretagne qui se dresse devant nous. Je ne sais pas comment va se dérouler la course. Ça va être un final très intéressant et je me demande si ça va de nouveau être pour les sprinteurs ou pour un puncher qui peut s'imposer là-bas.
Voilà, sprinter ou puncher, il nous dit.
Il n'a pas répondu à la question que nous posons.
Non, mais il sait très bien.
Une étape comme demain.
Ne parle pas de l'étape de demain.
Non, mais ça va être la même chose qu'aujourd'hui. Il y a trois mecs qui vont lever leur queue et ça va arranger tout le monde. Donc un petit train derrière et puis voilà, ça va pas s'user plus que ça.
Ça se réglera dans la dernière ascension.
Je
ne
sais même pas quand les coureurs partent s'ils lèvent le cul. Je crois qu'ils accélèrent seulement.
Ah ouais, ils accélèrent ainsi.
Générique, les gars.
Ils flinguent ainsi. Ah, tup, 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 tup.
Il est en pleine forme, Lucho. Le générique de la Coupe des années 80, l'époque où la bande à Guimard triomphait sur toutes les routes de France et de Navarre. Hein, c'était le bon temps, ça. Quand les Français gagnaient dans le Tour de France. Ah, c'est plus ça maintenant.
Arrête de tourner le couteau dans la plaie.
Ah, c'est terrible. Peut-être demain, peut-être pourquoi pas demain. On écoutera tout à l'heure Warren Barguil qui arrive sur les terres de Bretagne. Et qui...
Ah, il arrive chez lui, là.
Ouais, il a peut-être des ambitions. On va en parler dans un instant, puisqu'on va se retrouver pour évoquer justement ce mur de Bretagne. Alors c'est un mur ou c'est le nom du village à Cyril?
Écoutez, je
c'est le nom du village, c'est un mur.
Dit par Frédéric parce que moi j'ai parlé de l'arrivée dans le mur de Bretagne et il m'a dit non, c'est le nom de la ville.
Eh oui.
Alors effectivement, c'est pas ton coin de la ville, ouais. Qui sort de la ville mur de Bretagne. Mais pourquoi s'appelle-t-elle mur de Bretagne? Parce que c'est bien à cause de la côte.
Évidemment, c'est pas.
Si c'était dans la Beauce, là-bas, chez Galopin, on n'aurait jamais appelé un village, une ville mur de Bretagne, enfin, ou mur de la Beauce.
Et non, très bien. Encore 4 minutes à passer. Non, même plus
ça va encore
un quart d'heure avec vous là.
Oh, j'ai un coup de mou moi.
T'as souvent des coups de mou toi. C'est l'après-midi. Le soir tu te couches trop tard aussi. Qu'est-ce que tu veux. Il fait toutes les boîtes de nuit de France.
N'importe
et de
quoi.
Il s'en va comme ça. On le piste de temps en temps. On le voit s'échapper subrepticement vers 1h du matin.
Je suis pas sorti une fois depuis le début du tour.
C'est ça. Ce soir il y a une soirée caravane. Il a donné l'adresse. Tout le monde va y aller. C'est où ce soir la soirée caravane?
Mais non, on va boire un coup. El Paquito.
Ah, ouais. Le Paquito. Le Paquito chocolaté. Le Paquito, oui. 19h42, ouais. L'intégrale Tour revient
dans un
instant.
Dans la caravane.
Mur de Bretagne. Demain, l'étape, la 8e étape en Bretagne. À tout de suite.
RMC Intégrale Tour. Christophe Cessieux.
Et dans un quart d'heure, vous avez rendez-vous avec Virginie Fulpin et Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui répondront à toutes les questions que vous vous posez ce soir au terme de la 7e étape du Tour de France. Et avant l'étape donc qui nous amènera demain à Mur de Bretagne, entre Rennes et Mur de Bretagne. Cyril, on va traverser quasiment tous les départements bretons, sauf le Finistère. On n'ira pas dans le Finistère cette année. Hein.
Non, puisque nous nous arrêtons à Mur de Bretagne. Alors, on va quitter le département du Morbihan à 9 km de l'arrivée, c'est-à-dire à peu près à 5 km de Mur de Bretagne. Et comme Van Plumlec, l'étape contre la montre par équipe se déroulera également dans le Morbihan. Ce sera une grande fête pour ce département.
Le département de Cyril Guimard.
C'est celui où j'habite.
Exactement,
voilà.
À Guerre, plus précisément, voilà. La ville du Druide. Si vous arrêtez là-bas,
familial,
vous pouvez aller chercher
maternelle, paternelle, les tontons, d'accord. Les cousins, tout ce que vous voulez.
Alors, sur le hashtag RMC Live, Slim Shady nous dit dommage de ne pas faire une étape plus dure en Bretagne car il y a de quoi faire là-bas.
Ça suffit.
Oui, par rapport à l'étape d'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup plus de bosses, mais qui à ce niveau-là de la course ne feront pas véritablement la différence. Ça va la durcir un petit peu. On est beaucoup plus en prise lorsqu'on va arriver sur les 50-60 derniers kilomètres, mais également juste avant d'arriver à Mur de Bretagne, là où on a quelques petites bosses moins difficiles que l'arrivée, bien sûr, mais qui ne sont pas anodines.
Alors Thierry, est-ce que tu penses qu'on va assister au scénario auquel on a assisté aujourd'hui, ou alors plus vraisemblablement un scénario tel que il s'est déroulé l'autre jour à l'arrivée au mur de Huy? Est-ce que ça ressemble un peu à ce genre d'arrivée au mur de Bretagne? Est-ce qu'on peut comparer
au mur de Huy? Beaucoup moins dur quand même, puisque je pense qu'un sprinteur comme Sagan peut éventuellement jouer la gagne au sommet. Ça risque d'être difficile quand même, puisque si Froome ne veut pas lâcher ce maillot jaune, c'est lui qui va disputer le sprint, et on sait que quand il met en marche la moulinette, ça va être dur de le passer.
Alors c'est 2 km d'ascension, Cyril, 6,9% de pente moyenne, mais durant le premier kilomètre et demi, c'est supérieur à 9%, donc c'est quand même rude, hein. C'est pas le mur d'Huy et c'est 25%, entre 20 et 25% dont on parlait l'autre jour, mais il y a de quoi faire des petites différences quand même là-dedans.
Oui,
hein.
Y a de quoi faire le ménage, oui, c'est vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut mettre en route au pied, quoi.
Ouais.
Il faut mettre en route au pied, puisque le premier kilomètre pratiquement est à 10%. Ensuite, la pente baisse un petit peu. Ce sont c'est les 5 ou 600 derniers mètres qui sont en faux plat montant. La différence, il faut faire le ménage avant. Sinon,
il faut faire le ménage au pied.
Pour tenir aussi, c'est ça le problème.
Tu fais faire le ménage par les équipiers. Hein.
Ouais. Donc alors, allons-nous assister à une grande bagarre des leaders du général? Il y a quelques secondes à aller récupérer. Lucho, est-ce que tu penses que demain la grande bagarre va reprendre plus exactement après s'être calmée aujourd'hui?
Moi, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Froome peut-être va tester un petit peu ses adversaires, dans le mur. De toute façon, un effort de 300, 400 voire 500 mètres, c'est pas grand-chose sur la suite du tour. Donc, j'ai l'impression que un des quatre leaders va éventuellement vouloir tester, pour savoir un petit peu la réaction et s'ils sont assez réactifs dans les attaques, et voilà. Moi, je vois bien Froome attaquer demain.
Thierry, tu es d'accord avec ce que vient de dire Lucho?
Oui, très proche, très proche. Je pense qu'il y a peut-être un petit test à se faire entre les quatre leaders, là. Avec un avantage quand même certain sur Froome.
Oui. Très bien, messieurs, une information qui vient d'arriver à l'instant même, Fred va nous en parler. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas eu de contrôle antidopage.
Un petit contrôle, hein.
Un petit contrôle.
Oh,
voilà.
Ça arrive pas.
Ouais, chouette, un petit contrôle.
Allez, qui pour le contrôle? Qui? Allez, on y va, messieurs.
Et quel produit?
Il y a une équipe qui est en particulier, je pense.
Allez, qui vient d'être piqué à la cocaïne sur le Tour de France, messieurs?
Cocaïne sur le Tour?
Oui. Luca Paolini, on met fin au suspense. L'Italien, vainqueur d'un grand Wevelgem très humide, très vanté cette année en 2015. Luca Paolini, coéquipier d'Alexander Kristoff chez Katusha. Ouais. Pourtant un coureur d'expérience.
Je pensais à l'autre.
Ouais, 38 ans, voilà.
38 ans, ben voilà comme c'est le reste de sa carrière.
Un contrôle de plus dans l'histoire du vélo.
Mais attendez les gars, soyez gentils. Ouais. Dans le tennis, ils peuvent embrasser une gonzesse, c'est à cause de ça.
C'est probablement aussi, ce qu'a fait Luca Paolini.
Il est sorti avec Lucho, il a embrassé.
Et voilà. Tu dis qu'ils peuvent embrasser. Il a pris le verre. Mais Richard Gasquet, lorsqu'il a été contrôlé positif, a été sanctionné. Thierry, ne dis pas.
Sanctionné.
Ah ben oui, évidemment qu'il a été sanctionné. Oui. Sanctionné. Donc pour Paolini.
Oui. Contrôle pendant le Tour de France. Contrôle positif à la cocaïne pour le coureur de l'équipe Katusha. On ne sait pas. C'est l'équipe.fr qui nous sort ça.
On rappelle
que la cocaïne n'est pas considérée comme dopante quand elle est utilisée hors compétition, mais il se trouve que sur le Tour de France on est bel et bien en compétition, donc on s'attend
à lui faire plaisir sur une sortie, et puis voilà,
on sait pas. Est-ce que le pot belge est toujours en à la mode dans le peloton, parce que on se souvient que Tom Boonen avait été pris à la cocaïne via le pot belge.
Très bien, je vous rappelle donc Richard Gasquet avait été suspendu, mais bon, une sanction quand même assez légère puisqu'il n'en avait écopé que de 2 mois et demi de suspension.
Symbolique.
Voilà, c'était symbolique. Messieurs, c'est l'heure des paris. On va évidemment vous tenir au courant de la suite de cette affaire. Les paris, tout de suite, c'est avec Benoît Boutron.
Les paris RMC, Tour de France.
Avrel est en vacances ce soir. Avrel, c'est Benji. Salut Benoît. Ça, c'est
salut Jean messieurs. Oh, ouais, c'est gentil. Benoît. C'est vrai qu'il y en a un qui est plus petit que l'autre. Je vais deviner lequel.
Benoît, avant de faire l'étape du tour, c'est dans quelques jours. Ça se précise quand même.
Eh oui. Hein, c'est dans 10 jours.
C'est dans 10 jours. J'espère que tu te prépares bien. T'inquiète Benoît. Pas. Donc les favoris pour l'étape de demain,
c'est
l'arrivée à Mur de Bretagne. Il nous reste que 2 minutes, messieurs. Donc on va essayer de faire vite.
Ouais. Le favori, c'est Sagan, messieurs.
Vous invite. Tu le dis à Cyril.
Vous en parliez. Le favori, c'est Sagan. On le rappelle. Donc cette arrivée à Mur de Bretagne avec une ascension de 2 km avec une pente moyenne à 7%. Sagan à 4,20. Tony Galopin qui fait partie des favoris. Il est à 8,50 Tony Galopin. Le problème c'est qu'il est 4e au général donc il sera certainement surveillé. Alejandro Valverde, cote de 7. Purito Rodriguez qui a déjà gagné au Mur de 8, cote de 10. Ou pourquoi pas Chris Froome, ça va être mon pari. Bourgui en parlait, même ouais. Lucho. Moi je vais jouer Chris Froome, cote de 12, messieurs.
Ah ouais. Moi aussi, tiens. Ouais. Allez. Moi aussi parce que je le sens bien là. Ouais. Je sais pas.
Histoire de tuer définitivement la concurrence.
Non, pour marquer son territoire. Et comme disait Cyril, il est en train gentiment, doucement, de devenir le patron du Tour de France. Et là, une belle étape avant les Pyrénées, ben, ouais, psychologiquement, ça sera très très fort.
Très bien. Donc Benoît et Thierry nous disent Chris Froome, Lucho, en tant qu'ancien leader du Tour de France.
Bah, écoute... Moi, je vais prendre des risques.
Ah,
ouais. Je vais prendre énormément de risques.
Des risques, il n'est pas là. Hein.
Je vais mettre Alexis Villermoz.
Alexis Villermoz.
Ouh là là. Ah oui, ça, c'est une grosse cote. C'est 150, Alexis Villermoz.
Alexis Villermoz qui...
Non,
qui
avait... 30. Non.
Non, attends, je vérifie.
Villermoz qui avait fait 3e au Mur de Huy. Hein.
Attends, donc, écoute.
C'est pas mal,
ah oui, pardon. Ouais,
et
pardon.
Puis Cyril,
c'est
Cyril,
pas Villermoz. 30. C'est 30, Cyril, la cote de Villermoz.
Cyril nous dit en plus qu'il peut être la révélation française de ce Tour de France. Donc Villermoz.
Le petit gamin.
Lucho, si ça.
Tu sais, si les leaders bon pour se regardent un petit peu, il est devant.
Monsieur le druide. Il vous reste 15 secondes.
Eh bien, moi, je pensais éventuellement à Villermoz, à Barguil, à Nibali également, mais finalement, Nibali, je vais prendre 30. Peter Sagan.
Ah, bah, le favori, ok. 4,20.
Il prend pas de risque.
Tout ça pour ça.
Non, non, il a cité 5,88.
Hein. Bon, et moi, je vais donner Warren Barguil. Comme ça, au moins, demain, on est en Bretagne, on est chez lui. Ouais. Et le petit français,
c'est 125, Warren Barguil.
Ah ouais, mais et faut prendre des risques. De toute façon,
Christophe, tiens-toi bien. C'est également le pari, je crois, de Virginie Fulpin.
Ah. Oui, je l'avais dit avant, Christophe, je ne copie pas. Oui. Hein, je ne copie pas parce que je sais que mais tu gagnes gravement. Barguil. Donc en plus,
je suis agressif quand on.
Il a un prénom anglais.
Tu ne donnes pas Cavendish demain, c'est étonnant. Ni Chris Froome d'ailleurs.
Non, ni Chris Froome, mais ouais, Warren, ça sonne anglais.
Mais Warren, il est bien français.
Warren. Voilà. Non, le petit poème, je le ferai lundi.
Warren n'est pas français, il est breton, Warren Barguil.
Oh, les bretons et les gros bretons.
Ah oui, d'accord.
T'as les Bretons et les Grands.
Voilà, il y a toujours Bretagne dedans, donc je prends.
Ah, mais Breton.
Bon, les classements, c'est quoi ce soir?
Alors, on a le temps ou pas?
On a le temps ou pas?
Est-ce qu'il prend le maillot jaune, vite fait?
Je sais pas.
Bref, Thierry Bourguignon est en tête et du maillot jaune et du maillot vert. Voilà. Cyril, tu es deuxième au maillot vert et au maillot jaune aussi, d'ailleurs. Tu as 25 euros.
On est chez dans le négatif, moi?
Ouais, t'es à moins 10 euros, toi, Lucho.
Oh, bah, ça va encore.
Christophe Cessieux, moins 70.
Oh là là là, je vais être exclu de la course. Je suis dans les délais. Très bien. Allez, les paris, on y revient demain, évidemment.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Alors Virginie, je te laisse les deux affreux. Moi, je pars dîner. Madame Guimard nous a prévu un petit repas ce soir.
Ah, mais c'est pas possible. Mais tous les soirs, en fait, il y a quelque chose de prévu. Donc, oui, mais voilà, c'est comme ça. C'est le Tour de France.
Ils font croire qu'ils travaillent.
Non, mais...
Non, on travaille pas.
Donc, l'autre chose est bon, vous restez avec moi.
Ouais, le temps
jusqu'à 20h30 pour répondre à toutes vos questions au 32-16 et sur Twitter avec le hashtag RMC Live. À 20h30, ce sera notre page foot. Johan Cabaye a signé à Crystal Palace. Aujourd'hui, il quitte le PSG. Alors, pourquoi les clubs anglais, même moyens, pillent la Ligue 1? On en parlera avec l'économiste Pascal Perry. Et puis, l'entraîneur du promu, le Gazélec Ajaccio, sera en direct à 20h45. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.